Vous êtes à l'écoute d'une émission chrétienne intitulée « Chemin de vérité ». Vous êtes invité à suivre chaque semaine avec nous des études bibliques de divers sujets d'importance spirituelle. Le sujet de ce jour est le travail de l'Église, son financement. Dans notre étude de l'Église, nous avons parlé de la mission de l'Église et des différents aspects de son travail. Cette activité demande certains moyens. Par exemple, l'Église a la tâche d'évangéliser ou propager la parole de Dieu. L'argent permet de produire de la littérature chrétienne, d'employer les masses médias et de faire travailler des évangélistes à plein temps. Tout ceci pour accélérer ce travail très urgent. Une assemblée a généralement besoin de se pouvoir un lieu pour ses réunions, où elle adore Dieu et édifie ses membres. Ou bien elle loue un local, ou bien elle paye ou construit son propre lieu de culte. L'Église est appelée à faire de bonnes œuvres en assistant les plus nécessiteux et ceux qui souffrent. D'autres besoins qui, eux aussi, nécessitent de l'argent pourraient être ajoutés à cette liste. Mais où doit-on trouver ces fonds pour l'œuvre de l'Église? Comment faut-il financer les activités religieuses? Plusieurs méthodes sont employées par les groupes religieux qui nous entourent. Certains imposent un taux annuel que chaque homme ou chaque femme doit payer. Les membres doivent aussi payer de l'argent s'ils désirent certains offices spirituels, tels que le baptême ou des prières spéciales. D'autres églises organisent ce qu'elles appellent une fête des moissons, où l'on propose divers articles en vente aux enchères, et ceux qui assistent acceptent de payer des prix exagérés, sachant que l'argent doit servir aux activités de l'église. D'autres imposent des cotisations. D'autres vendent des objets qui sont censés avoir un pouvoir spirituel. D'autres font des collectes plusieurs fois chaque semaine. Et d'autres encore s'engagent dans des activités qui peuvent leur apporter de l'argent, telles que l'agriculture. Beaucoup insistent sur la dîme et enseignent à leurs membres qu'ils ont l'obligation de donner à l'Église 10% de ce qu'ils gagnent. Est-ce que la Bible dit comment l'œuvre de Dieu doit être financée? Oui, en fait, la Bible nous dit beaucoup à ce sujet. Dans le Nouveau Testament, nous constatons qu'il y avait une seule méthode employée pour financer l'œuvre de l'Église, les offrandes, les dons volontaires des membres. Quand on dit « volontaire », il faut entendre ce qui est donné sans contrainte. 2 Corinthiens 9, verset 7 dit clairement « Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Il faut donner librement, parce qu'on veut donner. On doit donc décider soi-même combien on va donner. Quand nous donnons parce qu'on nous a imposé de donner une certaine somme, cela devient une sorte d'impôt. Et presque personne n'aime payer des impôts. On les paye parce qu'il le faut. Mais ce n'est généralement pas avec joie. Quand on fait un cadeau à quelqu'un qu'on aime parce qu'on veut lui faire plaisir, là c'est autre chose. Dans ce cas, on découvre, comme Jésus l'a dit en Actes 20, verset 35, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Au commencement de l'Église de Jérusalem, l'attitude des chrétiens envers leurs biens leur permettait d'être très généreux. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Actes 4, verset 32. On parle de ceux qui allaient jusqu'à vendre des champs et des maisons afin de subvenir aux besoins des plus pauvres. Mais il ne faut pas penser que cela leur avait été imposé, comme dans certains pays communistes. Le chapitre suivant nous parle d'un couple nommé Ananias et Sapphira qui a vendu une propriété, mais a menti concernant le prix de vente. Ils ont retenu une partie de l'argent, ce qu'ils avaient le droit de faire. mais ils voulaient qu'on pense qu'ils avaient été aussi généreux que les autres. Les paroles que l'apôtre Pierre a adressées à Ananias montrent qu'il n'y avait pas de contrainte en ce qui concernait les dons. Il dit « S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas ?» Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Acte 5, verset 4. Paul écrit en Romains 15, versets 26 et 27 « Car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu et elles leur devaient. Car si les païens ont eu part à leurs avantages spirituels, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. » On voit clairement dans ces versets qu'il y avait la libre volonté de donner et en même temps la reconnaissance d'une obligation morale de donner. En envoyant les apôtres pour prêcher, Jésus leur dit en Matthieu 10, verset 8, « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Quand le chrétien considère tout ce que Dieu lui a donné et continue de lui donner dans sa grâce, il devrait vouloir donner en retour avec joie et reconnaissance. S'il ne peut pas le faire avec un tel esprit, Dieu ne veut pas de son offrande. On devrait réexaminer plusieurs pratiques dans les églises à la lumière de cette insistance biblique sur l'importance de donner sans contrainte. Quand les membres de l'église doivent faire marquer dans un carnet qu'ils ont donné ce qui est exigé, quand on va chez les membres à domicile pour réclamer une dîme ou une cotisation qu'ils n'ont pas donnée d'eux-mêmes, quand on déduit une contribution automatiquement du bulletin de salaire de ceux qui travaillent pour l'Église ou pour ses ministères tels que les écoles primaires et secondaires, quand on fait ces choses, on introduit la contrainte, on enlève la joie et on transforme des dons d'amour en impôts. Un autre principe concernant le financement de l'Église concerne le jour de la collecte. Les Écritures précisent que ces dons volontaires sont réunis le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez, vous aussi, comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. 1 Corinthiens 16, versets 1 et 2. Puisque le jour où toute l'Église se réunissait pour prendre la Sainte Cène était le dimanche, selon Actes 20, verset 7, c'était l'occasion naturelle pour faire la collecte en même temps. Aucun autre jour de la semaine n'est mentionné dans le Nouveau Testament pour réunir les dons des membres. S'ils savent qu'il n'y aura pas de collecte le mercredi quand ils viennent ensemble pour étudier la Bible, ou le vendredi quand ils se réunissent pour la prière, ils apporteront le dimanche tout ce qu'ils ont à donner pour la semaine. Inutile donc de faire des collectes à chaque réunion. Cela ne veut pas dire que le chrétien ne peut pas faire un don à un nécessiteux ou faire une bonne œuvre quelconque un autre jour de la semaine. Sur le plan individuel, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Galates 6, verset 10. Combien faut-il que chacun contribue à l'œuvre de l'Église? Le principe qu'on trouve partout dans le Nouveau Testament est que chacun donnait selon ses moyens, ou selon sa prospérité. Nous avons déjà vu que Paul dit en 1 Corinthiens 16, verset 2, que chacun doit mettre à part ce qu'il pourra, selon sa prospérité. En Actes 11, les chrétiens à Antioche ont appris qu'une famine allait se produire et pesait beaucoup sur les habitants de la Judée. Le verset 29 dit « Les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. » Ce principe est contre l'idée d'imposer dans l'Église des cotisations où chaque homme doit payer la même somme. Tous n'ont ni les mêmes revenus, ni les mêmes charges. Tous ne devraient pas donner la même chose. Dire que l'on doit donner selon sa prospérité ne veut pas dire que certains sont exclus du devoir de donner à Dieu. Même les pauvres montraient leur foi et leur amour par leur façon de donner. L'histoire de la pauvre veuve en Luc 21, versets 1 à 4, montre que les pauvres ne sont pas exclus de cette question d'offrande à Dieu. La femme en question n'a donné que deux petites pièces d'argent, mais c'était tout ce qu'elle avait pour vivre. Le Seigneur le savait, et il l'a louée pour le sacrifice qu'elle avait fait. Mais quelle part de nos moyens faut-il donner? La loi mosaïque ordonnait, en Lévitique 27, versets 30 et 32, de donner la dîme, ou 10% de tous ses revenus. Cette loi n'a pas été reprise dans le Nouveau Testament, qui nous parle de donner avec générosité. Que celui qui donne le fasse avec générosité. Romains 12, verset 8. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Hébreux 13, verset 16. Pour le chrétien, il n'y a pas un taux fixe, tel que la dîme, mais chacun doit s'examiner pour voir s'il est vraiment généreux avec Dieu. La dîme peut servir de point de repère pour s'évaluer. Par exemple, on pourrait se dire que si Dieu exigeait un minimum de 10% de ses serviteurs dans le passé, donner 3 ou 4% de nos revenus aujourd'hui ne serait probablement pas généreux à ses yeux. Si tous les Juifs devaient forcément donner la dîme, quelle que soit leur position sociale, je ne pourrais pas dire que pour moi, il n'est pas possible de donner autant. C'est une question de foi et de volonté. Il ne faut pas faire de la dîme une loi pour l'Église. Mais la dîme peut me servir personnellement de point de départ en ce qui concerne mes dons. Dans l'amour que j'ai pour Dieu, j'essaierai de donner le plus possible. Enfin, pour la gérance de l'argent qui est collecté, il faut que ce soit fait avec intégrité et transparence. Paul a parlé des précautions prises avec l'argent donné pour aider les pauvres de la Judée. Il dit « Nous agissons ainsi afin que personne ne nous blâme au sujet de cette abondante collecte à laquelle nous donnons nos soins. Car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. » 2 Corinthiens 8, versets 19 et 20. Les assemblées locales étant autonomes, chacune doit gérer ce qu'elle donne. Les membres devraient savoir comment l'argent est utilisé. Tous devraient reconnaître que ce qui est dans la caisse de l'Église appartient à Dieu lui-même et doit être employé de manière à le glorifier. Le plan de Dieu pour financer son œuvre est donc très simple et très beau. Chaque dimanche, chaque chrétien donne volontairement tout ce qu'il peut, selon sa foi, son amour pour le Seigneur et sa reconnaissance pour la grâce de Dieu. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Son véritable Église aujourd'hui fera comme celle du premier siècle, dans ce domaine comme dans tout autre.
Sois mon maître, sauve ton âme, Jésus, prince de la paix, car toi seul saurais me rendre le cœur tranquille à jamais. Prends mon cœur, ô Dieu, ses aspects, fais qu'à sa place j'érige un saint temple de ta paix. Prends mon cœur, ô Dieu, ses aspects, fais qu'à sa place j'érige un saint temple.